Après avoir reçu les sacrements, il envoya quérir monsieur le duc d'Orléans, lui parla longtemps et lui parla avec beaucoup d'estime et d'amitié, l'assurant qu'il ne trouverait rien dans son testament dont il eût dû être content, lui recommandant la personne du dauphin et l'intérêt de l'État. Après cette conversation, le bruit se répandit dans toute la cour que le roi l'avait déclaré régent. Journal de Danjou, valet de chambre de Louis XIV, le 25 août 1715.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 1er septembre 1715, Louis XIV mourait. Le problème, c'est que son arrière-petit-fils, Louis XV, le seul qui finalement était apte à lui succéder, n'avait que 5 ans. Il fallait donc organiser une régence. Celle-ci fut confiée à Philippe d'Orléans, neveu du roi défunt, et un homme qui s'était fait remarquer à plusieurs reprises, durant en particulier la guerre de succession d'Espagne, pour ses talents militaires. Il a donc reçu la régence, mais il est évident qu'il avait tout de même l'ombre du grand roi qui planait encore autour de lui, et puis une noblesse qui désormais voulait essayer de récupérer des positions de pouvoir que le souverain défunt lui avait enlevées. Le 2 septembre, Philippe d'Orléans s'est donc présenté devant le Parlement de Paris, a fait ouvrir le testament du feu roi, et il a été proclamé officiellement régent. Néanmoins, il a fait des promesses. En particulier, il a obtenu du Parlement le fait que le testament soit révisé sur la légitimation des bâtards de Louis XIV, le duc du Maine et le comte de Toulouse. Par contre, il a fallu qu'il fasse un geste de bienveillance vis-à-vis des parlements, et en particulier, il a restitué le droit de remontrance que Louis XIV avait particulièrement cadenassé durant les années 1670 et jusqu'à sa mort. Alors évidemment, que retenir de cette régence de Philippe d'Orléans ? La tradition légère a fait qu'on a surtout retenu les soupers, les petits soupers, les petits dîners du régent, qui étaient en fait des espèces de parties fines organisées avec quelques amis. Mais évidemment, résumer le régent et la régence à ces secrets d'alcôve ne suffisent pas. En fait, il y a chez lui une volonté, d'abord, de nouveauté politique. Il comprenait que le système Louis XIVien, s'il avait montré une indéniable efficacité, eh bien, avait effectivement écarté la vieille noblesse de ses postes traditionnels. Or, ce qu'il va initier, c'est ce que l'on a appelé le système de la polysynodie. C'est-à-dire que Philippe d'Orléans a supprimé les postes de secrétaire d'État que Louis XIV avait progressivement installés dans les années 1660, au profit d'une série de 6, puis de 8 conseils, dominés par la vieille noblesse, et qui donc s'occupaient respectivement des affaires de la marine, des affaires étrangères, de la guerre, des finances, etc. Ce système, il a vite compris qu'il ne fonctionnait qu'assez mal. En effet, au sein même de cette polysynodie, c'est-à-dire de cette série de conseils, eh bien la vieille noblesse se disputait parce que les avis étaient divergents, parce que chacun voulait avoir la meilleure place, ce qui fait que l'expérience de la polysynodie n'a duré que 3 ans. Philippe d'Orléans s'est rendu compte que ce système de conseils dominé par la noblesse ne fonctionnait pas vraiment et il a donc décidé de revenir, à partir de 1718, au système des secrétaires d'État qu'avait fait le gouvernement Louis XIV et qui finalement seront ces secrétaires d'État, les ministres du roi et les représentants du gouvernement royal jusqu'à la Révolution de 1789. Il y a aussi un autre aspect du régent que je voudrais souligner dès maintenant. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui a un profond goût pour la peinture, pour la musique, pour la poésie, et il nous a laissé d'ailleurs une série d'œuvres musicales non négligeables. Je vous propose d'écouter un extrait de l'opéra que le duc d'Orléans a écrit, Panté, et qui a été utilisé pour le générique du grand film de Tavernier « Que la fête commence ». Un autre aspect que je voudrais souligner aussi dans cette expérience politique de la Régence, ce sont les nouveautés financières. Effectivement, le régent a accepté un système nouveau promu par un Écossais, John Lass ou John Law, les deux expressions finalement peuvent être acceptées, qui reçoit l'autorisation le 2 mai 1716 d'ouvrir un établissement bancaire à Paris. Mais la grande nouveauté que propose Lass, c'est finalement de créer du papier monnaie, ce que nous appellerions aujourd'hui des billets. Les Français étaient habitués d'utiliser les pièces, qui étaient finalement, comme l'on disait, sonnantes et trébuchantes. Tandis que le système de Lass était la capacité de remplacer progressivement la monnaie par des billets qui pourraient faire circuler, le croyait-on, une plus grande quantité de monnaie. Cette expérience a en fait fort mal tourné, parce que les Français, finalement, n'ont guère eu confiance dans le système. Pourtant, Lass avait été nommé contrôleur général des finances le 4 janvier 1720, à la demande du régent. Mais le problème, c'est que l'on a créé beaucoup trop de papier-monnaie. On a créé beaucoup trop de billets par rapport à la capacité numéraire du royaume. Et finalement, ces billets ne représentaient plus grand-chose, puisque plus on en produisait, plus leur valeur diminuait. En plus, il y a eu des spéculations. Certains grands et certains grands financiers du royaume ont spéculé sur la monnaie de billets de Lass. Régulièrement, effectivement, on jouait contre cette monnaie qui a perdu tout crédit auprès de l'opinion publique. Résultat, c'est que finalement, eh bien, au bout de quelques mois, Lass a dû démissionner et finalement, on a abandonné cette expérience de papier-monnaie. La deuxième expérience de papier-monnaie se fera sous la Révolution avec les assignats et ce ne sera pas d'ailleurs une réussite non plus. Il faudra attendre finalement la fin du XIXe siècle pour que véritablement les Français, dans leur vie quotidienne, s'habituent à avoir non plus des pièces pour payer, mais bien des billets. Autre élément que a voulu mener le régent dans sa politique, c'est l'apaisement international. L'apaisement international parce que effectivement le règne de Louis XIV avait été marqué, vous le savez, par une série de très grandes guerres. Et la dernière en date, la guerre de succession d'Espagne, qui avait permis au petit-fils de Louis XIV de devenir roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, avait laissé le royaume épuisé en 1713-1714. Or, Philippe d'Orléans veut un royaume et une Europe pacifiée. C'est pour cela qu'il va entamer une politique de rapprochement avec l'Angleterre et avec les Provinces Unies, y compris contre le royaume d'Espagne, qui était pourtant occupé par un Bourbon. Mais il est vrai que Philippe V avait une politique internationale qui risquait de remettre le feu aux poudres en Europe. Et le régent prudent a préféré jouer la carte finalement de l'Angleterre plutôt que la carte plus traditionnelle et plus évidente a priori de son cousin Philippe V d'Espagne. Donc une politique voulant apaiser les relations internationales. De même, il a essayé d'apaiser la situation religieuse en France. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur ce phénomène, mais la fin du règne Louis XIV avait été marquée par ce qu'on appelle le jansénisme, qui était un aspect rigoriste, mais pas seulement, du catholicisme. Or, la bulle Unigenitus du pape, qui avait été adoptée en 1713, venait d'être accueillie dans le royaume. Et donc, le 5 juin 1718, une déclaration royale imposait cette bulle qui condamnait les principes du jansénisme. Or, le problème, c'est que cette bulle pontificale a été extrêmement débattue, extrêmement controversée, y compris au Parlement. Si l'épiscopat, en 1720, pour la très grande majorité d'entre les évêques, accepte la constitution Unigenitus qui condamne le jansénisme, eh bien, il y a dans le Parlement et dans les parlements de province des partisans du jansénisme et peut-être aussi des opposants finalement à la politique royale qui veillent à ce que cette bulle soit finalement critiquée, contestée. Et la question janséniste va largement dépasser évidemment la régence et va traîner tout au long du XVIIIe siècle, devenant une pomme de discorde extrêmement importante au sein de l'Église de France. Dernier point que je voudrais souligner sur la régence, c'est que le régent a su s'entourer d'hommes de qualité. Il avait choisi Monseigneur Fleury, qui était celui qui avait été désigné pour éduquer le jeune Louis XV et qui fait son entrée au Conseil le 22 février 1723 et qui par la suite deviendra le principal ministre du jeune Louis XV. Mais il a su aussi s'entourer de quelqu'un qui, je dirais, si sur le plan moral peut être effectivement peut-être discuté, mais qui a été un grand politique, c'est le cardinal Dubois. L'abbé Dubois, membre de l'Église, mais dont les relations avec Dieu étaient sans doute quelque peu particulières. On n'est même pas sûr que Dubois avait véritablement la foi chrétienne. Mais en tout cas, c'était un excellent diplomate, ce qu'a su remarquer le duc d'Orléans. Et donc, il l'a attaché à son service. Et Dubois, devenu cardinal, va occuper le poste de secrétaire d'État aux affaires étrangères et fut de ce point de vue-là un grand ministre. Et en léguant Fleury et d'autres ministres au jeune Louis XV, il assurait au jeune monarque une classe politique finalement de qualité. Voilà en quelques minutes le bilan que l'on peut essayer de faire de la régence de Philippe d'Orléans, une période riche, extrêmement mouvante, extrêmement passionnante. Et d'ailleurs, remarquons que c'est à quelques mois de distance que les deux principaux personnages de la régence meurent. Le cardinal Dubois décède le 10 août 1723 et Philippe d'Orléans, malade déjà depuis plusieurs mois, s'éteint le 2 décembre de cette même année, laissant le poste de principal ministre au duc de Bourbon avant que le cardinal Fleury prenne à son tour sa place.